aux auditeurs de Radio MDM, vous êtes dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire ». Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Château Vieux et des moulins de la ville de Mont-de-Marsan. Alors, le Château Vieux, rappelez-vous de l'émission d'il y a un mois, le Château Vieux, c'est le plus ancien château de la ville, qui a été à peine fondé. C'est donc le château qui a été le siège du pouvoir des vicomtes de Marsan pendant plusieurs siècles et qui s'est levé à l'emplacement de l'actuel théâtre, Place de Gaulle. Alors, il y a une question qui agite toujours les historiens, hein, qui est restée en suspens. Est-ce que ce château vieux existait avant la fondation de la ville, ou bien est-ce qu'il a été édifié par le vicomte Pierre à partir de 1141? Mais aucun texte ne le précise. Nous avons quatre récits de la fondation de la ville qui sont tous postérieurs à l'événement qu'ils relatent et ils sont ambigus. Donc, la seule certitude, c'est que la future ville et le château vieux ont été édifiés à l'extrémité nord de la paroisse de Saint-Pierre-du-Mont. Ce que l'on connaît en tout cas de l'organisation générale du Château Vieux correspond bien aux édifices du XIIe siècle. C'était ce que les spécialistes des châteaux, qu'on appelle d'un nom savant les castellologues, un château roman très répandu en Gascogne, c'est-à-dire une grande tour donjon entouré d'une cour, fermé d'une enceinte, et c'est à peu près ce qui est décrit dans un texte de 1609 conservé aux Archives nationales. Vous me direz qu'en 1609, il s'est écoulé plus de 450 ans depuis la fondation de la ville. C'est vrai, et il est très probable qu'en un demi-millénaire, des modifications ont dû être apportées à cet édifice d'origine, et on pourra l'évoquer tout à l'heure. Nous allons d'abord parler un peu de son histoire, puis ensuite, je vous présenterai les dispositions de l'édifice. Avant tout, ce château vieux a été le siège du pouvoir et la résidence des vicomtes de Marsan, qui, avant sa construction, vivaient notamment à Roquefort et principalement, je pense, à Roquefort, peut-être aussi dans d'autres lieux de la vicomté comme Basconce ou Perquis. C'est la résidence des vicomtes de Marsan au moins jusqu'au tout début du XIVe siècle. Car ils n'y ont pas forcément habité en permanence. Hein. Par exemple, le fondateur de la ville, Pierre de Marsan, tout comme son fils Santulle ou sa petite-fille Stéphanie, était aussi comte de Bigorre. Ils se partageaient donc entre leurs deux états. Ils ne vivaient pas tout le temps à Mont-de-Marsan. De même, au XIIIe siècle, lorsque le Marsan est lié au Béarn en 1242, par le mariage de Gaston VII Moncade, vicomte de Béarn, et de Mathe de Mastas, vicomtesse de Marsan, eh bien, le vicomte de Marsan-Béarn habite aussi en partie à Orthès, dans son beau château d'Orthès. Cependant, c'est dans le château vieux que les actes les plus importants des vicomtes ont été signés. Ce lieu, qui est aujourd'hui disparu, a été le symbole de leur pouvoir en Marsan. C'est dans ce château, par exemple, que la vicomtesse Constance va rédiger et signer son testament en 1310. C'est là que Gaston Phébus, à peine majeur, passe plusieurs jours au château, afin de rencontrer à plusieurs reprises ses sujets montois ou bien les délégations des paroisses voisines. Par exemple, on sait que le 2 mars 1346, la cérémonie de réception du maire et des jurats y revêt une solennité particulière. Et donc, le vicomte passe encore au château pour recevoir les jurats de Roquefort, leur confirmer donc les forts, c'est-à-dire les coutumes, qui avaient été accordées par son lieutenant général en Marsan. Mais son pouvoir assuré, Gaston Phébus n'est plus revenu au château vieux, ni d'ailleurs à Mont-de-Marsan. Il y a installé en permanence un lieutenant général, qui sont de fortes personnalités, des hommes fidèles et dévoués comme Bertrand de Pujol, qui est originaire de Foix, Bertrand d'Aydy, par exemple, ou bien son cousin Pierre Arnaud de Béarn, et enfin son demi-frère Arnaud Guilhem de Morlanne. Alors tant que le château est demeuré la propriété des vicomtes, et que ces derniers y passent ne serait-ce que quelques jours, il est probable que le bâtiment a été entretenu. Mais à la mort de Gaston Phébus, en 1390, va lui succéder son petit-neveu, Archambault de Grailly, qui n'avait jamais vécu en vicomté de Marsan, ne s'y intéressait pas particulièrement et résidait ailleurs. Cela explique qu'à partir du XVe siècle, les vicomtes de Marsan, qui ne sont plus vicomtes que sur le papier, regardent depuis longtemps vers des horizons plus vastes, car ils ne sont pas seulement vicomtes de Marsan et comtes de Foix, mais ils sont aussi souverains de Navarre, ils ne s'intéressent plus à leur château. Ce qui explique que le château soit concédé à la ville de Mont-de-Marsan par Catherine de Foix, épouse de Jean d'Albret, par un acte du 19 septembre 1488. Et donc, ce don indique que l'héritage des Marsan n'était donc plus qu'un lointain souvenir pour cette famille, car le siège de leur pouvoir se situait ailleurs. C'est un don qui se révèle finalement assez difficile, car la charge du château a été très lourde à tenir pour la municipalité. Et il est certain qu'elle a dû avoir du mal à l'entretenir. Alors pendant quand même quelques temps encore, le château va rester le symbole du pouvoir vicomtal, puisque c'est là que Catherine de Médicis et Charles IX vont séjourner lors de leur voyage en 1564-1565. C'est là aussi que va être reçu Henri de Navarre, le futur Henri IV, durant son séjour montois. Mais voilà, les guerres de religion qui vont éclater à partir de 1569 vont beaucoup endommager l'édifice. Entre 1569 et 1580, Mont-de-Marsan passe alternativement aux mains des protestants et des catholiques, les familles se déchirant entre les deux religions. La ville est un enjeu, car c'est un riche marché, mais aussi elle conserve son importance stratégique. Donc, en septembre 1569, le capitaine Montluc, commandant des troupes catholiques, réussit à rentrer dans la ville, puis dans le château vieux, dont la garnison est massacrée. En 1580, Bertrand de Poyanne, gouverneur de Dax et chef des catholiques de Gascogne, s'empare de Mont-de-Marsan et commence la démolition du château vieux afin d'empêcher les protestants de l'occuper. Ce sont seulement les énergiques protestations du roi Henri de Navarre qui vont permettre de stopper la destruction totale de l'édifice. Mais le mal est fait. Même si la destruction est stoppée, l'état du château est lamentable. Les matériaux servent à reconstruire un bâtiment qui est affecté au sénéchal, juste nommé, et une partie permet d'effectuer des réparations à la maison commune toute proche. Donc, à la sortie des guerres de religion, Henri IV organise le service des fortifications afin d'établir une défense moderne sur les provinces frontières du royaume, avec Sully comme surintendant des fortifications en 1600. Il fait alors réaliser un inventaire détaillé de ses châteaux de Navarre afin d'évaluer les réparations nécessaires à la remise en état de ses édifices. Et c'est ainsi qu'une commission composée d'officiers royaux en fait une inspection approfondie le 22 juin 1609 et rédige un procès-verbal indiquant que le château vieux était dans un état pitoyable. Depuis le 27 octobre 1595, des accords avaient été passés entre catholiques et protestants, en vertu desquels ces derniers pouvaient utiliser une partie du château vieux pour leurs prêches et prières. Mais à partir de 1627, le culte réformé n'est plus, semble-t-il, célébré à Mont-de-Marsan. Une autre partie du château servait aux institutions de justice, le présidial, c'est-à-dire l'équivalent du tribunal. Il servait aussi donc à l'auditoire royal, ainsi qu'aux prisons qui, entre guillemets, campaient au milieu des ruines de bâtiments dont murs et tours menaçaient de s'effondrer. Donc au début du XIXe siècle, les besoins de l'urbanisme montois, notamment la construction d'une nouvelle prison et d'un tribunal à l'emplacement que vous avez connu donc jusqu'à une période très récente au centre-ville, nécessitent que l'on fasse place nette, car il n'existait pas d'autre emplacement libre au centre de la ville. Le 11 mai 1807, l'ingénieur voyer de la ville rend un rapport sur la démolition du château qui est effectuée par adjudication. Tout au plus, peut-on évoquer l'organisation générale de l'édifice au tout début du XVIIe. C'est un château au plan très simple avec un grand corps de logis, flanqué d'une tour à deux étages voûtée, située dans un angle du bâtiment près de la rivière. L'ensemble était entouré d'une muraille dans laquelle une grande porte de bois surmontée d'une tour voûtée à créneaux et mâchicoulis donnait accès à la cour où s'élevait le corps de logis. En 1609, ce corps de logis était vraiment réduit à l'état de ruine. Dans une partie encore couverte, on avait donc installé l'auditoire royal, le présidial et le temple. Et dans la tour en partie ruinée adjacente au corps de logis, au rez-de-chaussée, près de l'auditoire, se trouvaient les cachots voûtés surmontés d'une pièce. Tout près, contre l'angle du corps de logis, s'élevait une petite chapelle éclairée par deux petites baies. À cette époque, les réparations évaluées par les enquêteurs sont considérables. Presque toutes les charpentes sont alors endommagées, les murs de la tour se lézardent, il n'existe pratiquement plus aucun plancher dans les salles et même une partie des poutres sont très abîmées. Visiblement, le château a été pillé durant une partie du XVIe siècle. Aucun escalier ni cheminée ne figure dans l'inventaire de 1609, donc un château assez spartiate dans lequel devait être rude de vivre en permanence. C'est ainsi que se termine la vie de ce premier château qui a accompagné la fondation de la ville, puis son développement durant le Moyen-Âge. Donc, pour terminer ce premier volet, je vais vous présenter une chanson de croisade, « Le roi Louis part en croisade ». C'est une chanson traditionnelle du XIIIe siècle. Je suis sûre que vous la connaissez et en tout cas, elle vous rappellera sans doute des souvenirs.
Le roi Louis.
Voici le second volet de l'émission consacrée au château vieux et au moulin de Mont-de-Marsan au Moyen-Âge. Dans le premier volet, j'ai évoqué le château vieux qui a disparu aujourd'hui, qui a disparu depuis le début du XIXe siècle, mais qui s'est levé à l'emplacement de l'actuel théâtre Halle, place de Gaulle. Eh bien, face au château s'est levée la maison commune, dont je parlerai dans l'émission suivante, mais également au confluent tout proche avaient été édifiés un puis deux moulins. Alors je vais parler des moulins dans cette émission car ils ont joué un rôle très important dans le développement de la ville. Car en effet, c'est au commerce des céréales que Mont-de-Marsan doit son essor. Essor assez rapide puisqu'au début du XIIIe siècle, elle dispose de plusieurs faubourgs. Depuis sa fondation, la ville a donc vu s'élever plusieurs moulins, deux au confluent, d'autres sur le Midou aujourd'hui disparu, au moins deux sur la Midouze, le moulin de la Burte et le moulin de la Grange. Et s'ils ont eu pour fonction de moudre des céréales, on sait que l'un d'entre eux, qu'on appelle le moulin du Martinet, qui était situé sur la rive gauche du Midou, était un moulin à cuivre durant un temps en tout cas. Au pied de la Cataille existait aussi un moulin fortifié, surnommé moulin de l'Éclusier, qui, bien que très remanié, est toujours en place lorsqu'on emprunte la passerelle qui relie le complexe Midou au jardin de la Cataille. Enfin, plus en amont sur le Midou, du côté de l'Aïroir, trois moulins ont été en activité là où s'étendait un domaine seigneurial exploité par la famille des Farbos. Seuls les moulins du confluent appartenaient au vicomte au moins jusqu'au XVe siècle, car au Moyen-Âge, la possession des moulins était réservée aux seigneurs. On s'exposait d'ailleurs à des amendes extrêmement sévères si on avait le malheur de faire moudre son blé ailleurs que dans le moulin du seigneur, ou bien si on essayait d'élever un moulin sans autorisation. Mais à la fin du Moyen-Âge, petit à petit, sans doute sous l'impulsion de la guerre de Cent Ans, on a accordé à des particuliers le droit d'édifier un moulin, ce qui explique que les autres moulins montois, qui sont probablement la plupart postérieurs au moins au XVe siècle, appartenaient à des particuliers, à des ecclésiastiques ou à des laïcs. Alors revenons aux deux moulins royaux du confluent, qui nécessitaient d'ailleurs régulièrement des travaux en raison des dégâts occasionnés par la Douze et le Midou qui étaient quand même en crue de temps en temps, comme en ce moment par exemple. Il fallut donc les mettre en adjudication au XVIIe siècle, car la ville qui en était devenue propriétaire ne pouvait pas payer les réparations. À partir de ce moment-là, les moulins sont donc adjugés en fermage à un particulier. Et au cours du XIXe siècle, le marquis de Cornulier achète la chute d'eau du moulin du roi et transforme les moulins en minoterie et moulins à huile à partir de graines de lin et de colza. Puis à la fin du siècle, ils sont acquis par la famille Labrit, qui exploite la minoterie jusque dans les années 60, avant que la ville ne la rachète et ne transforme l'ensemble où est aujourd'hui installé l'office de tourisme. De tous les édifices que je vous ai présentés rapidement, seuls ont été conservés le moulin de la Douze, celui du Midou, qui sont reliés depuis 1982 par une galerie au-dessus de laquelle s'élève la minoterie, et également le moulin dit de l'Exclusier. Mais je vais vous parler essentiellement des deux moulins du Confluent, car c'est à leur propos que l'on dispose des renseignements les plus nombreux. Le plus ancien moulin, qui est sans doute contemporain de la fondation, dont les bases ont donc 750 ans, probablement, est celui de la Douze, situé à la pointe du Confluent aujourd'hui. On est certain de son ancienneté, d'abord parce que la base de ses murs sur 4 mètres a été édifiée selon une technique utilisée au XIIe-XIIIe siècle, avec de grandes pierres coquillères bien appareillées, que l'on peut retrouver que ce soit dans les maisons romanes, ou bien à la Cataille, ou bien tout simplement au niveau des fortifications. Mais surtout, nous avons un témoignage de la seconde moitié du XIIe siècle, celui de la donation des dîmes du moulin à l'église de la Madeleine par le vicomte Pierre et son épouse. Or, le vicomte décède en 1163. Le moulin existait donc avant cette date. Et leur fils Centule, vicomte de Marsan et comte de Bigorre, confirme ensuite la donation de ses parents et y ajoute les dîmes des moulins nouveaux. Cette dernière disposition indique donc clairement que la construction de nouveaux moulins a été nécessité par le développement du commerce. Et enfin, autre confirmation, s'il en fallait encore une, dès la seconde moitié du XIIe siècle, un autre membre de la famille vicomtale, Arnaud Guillaume de Basconce, fait construire un moulin dont il donne les dîmes à l'abbaye de Saint-Sever. Mais là, nous ignorons de quel moulin il s'agit. Mais revenons au moulin de la Douze, c'est-à-dire le plus ancien, celui qui se situe vraiment à la pointe du Confluent. Aujourd'hui, une digue barre la Douze juste en amont de ce moulin. On ignore à quel moment elle a été édifiée, mais nous avons le témoignage de son existence dans le procès-verbal de visite des commissaires du roi Henri IV en 1609. Il n'est pas impossible que l'aménagement de cette digue, qui crée une cascade augmentant la force des eaux, ait été réalisé presque en même temps que la construction du moulin lui-même, car on a un petit peu de mal, effectivement, à imaginer comment le moulin aurait pu fonctionner sur une rivière qui est déjà assez importante par son débit. Mais ces moulins ont fait l'objet de nombreux travaux à travers les siècles, et les traces en ont été conservées à travers les documents d'archives. Le second moulin encore existant, c'est celui au-dessus duquel a été édifiée la minoterie. Il a été élevé plus tard que le premier moulin, en même temps probablement que le pont médiéval aujourd'hui disparu, qui peut remonter soit au XIVe, soit au XVe siècle, car le moulin s'appuie sur une arche encore en place aujourd'hui de ce pont disparu. On la voit d'ailleurs très bien lorsqu'on se penche sur le pont. Au moment de la quatrième guerre de religion, la situation du moulin a permis aux catholiques de reprendre la ville qui était alors occupée par les protestants. Alors, on a un récit sur lequel il y a quand même quelques imprécisions, mais qui confirme l'idée selon laquelle le moulin du XVe, c'est-à-dire le moulin du Midou, a servi au chef des catholiques à rentrer dans la ville. Alors, c'est le 18 septembre 1580 que se situe donc ce récit. Le gouverneur de Dax, qui était le chef des catholiques, Bertrand de Baylinx, sieur de Poyanne, avait réussi à corrompre le meunier du moulin. Et donc, accompagné d'un groupe de soldats, eh bien, il est entré de nuit dans le moulin grâce à sa situation proche de la porte principale. Car en effet, chaque nuit, le corps de garde situé à l'entrée du pont s'ouvrait pour laisser passer une ronde vers le faubourg situé de l'autre côté de la rivière, c'est-à-dire le faubourg de la Grand-Fonde. Et donc, c'est ainsi que aurait été prise la ville de Mont-de-Marsan. Alors, je vous livre ce récit, hein, qui demande quand même quelques vérifications, mais enfin, bon, peut-être que certains auront envie de faire ces vérifications. Alors, comment fonctionnaient ces différents moulins ? Difficile de répondre, car nous n'avons aucun texte décrivant vraiment leur activité. Ces moulins sont installés en bordure d'une rivière assez importante, ce n'est pas un ruisseau. Et quand il s'agit des ruisseaux, eh bien, par exemple, on a l'habitude dans les Landes de créer des dérivations qui permettent donc de faire tourner la roue du moulin, par exemple, et surtout qui empêchent le moulin d'être emporté par les eaux en cas de crue. Alors, il est probable qu'un dispositif de type dérivation alimentant l'eau sous le moulin et actionnant l'arbre relié au meule était installé. On connaît ce dispositif pour le moulin de la Douze, puisqu'il est associé à une digue, de même que le moulin de l'Éclusier. Mais la digue du moulin de l'Éclusier a disparu, emportée par les pelleteuses qui ont participé à la construction du complexe Midou au pied de l'Acataille. On ne peut donc pas en dire grand-chose, mais en revanche, la chaussée du moulin du Confluent existe toujours et elle est d'ailleurs aujourd'hui dotée d'une passe à poissons. Peu à peu, les moulins ont été abandonnés au cours du 19e et surtout du 20e siècle. La plupart ont disparu, à l'exception des trois moulins dont je vous ai parlé plus haut et qui constituent un témoin précieux du passé de la ville. Alors cette émission se terminant, je vais vous proposer une chanson de l'ensemble vocal La Dolce Vista et non pas La Dolce Vita. Cette chanson s'appelle Laudar Volio per Amore.